pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que, en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat! Et pas le capital.
Le problème, c'est que on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est Eric Gore, chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse. Et bien évidemment, Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Eric Gore, une parole anarchiste communiste.
Merci à toutes et à tous pour votre présence ce soir. Merci à toutes les personnes qui ont accepté d'intervenir dans cette soirée. Et certains sont venus de loin. Et un grand merci aussi à Alexander Rankovic, enseignant à Sciences Po et qui va assurer la traduction du serbe vers le français et français vers le serbe. Donc Amnesty International qui organise cette soirée. Donc les rencontres d'Amnesty Paris, qui est le cadre général de cette rencontre de ce soir, ces rencontres ont pour but de présenter la situation des droits humains dans un pays dont on parle peu. Et ce soir, nous évoquerons un pays qui est au cœur de l'Europe, la Serbie. Alors, il ne me reste qu'à présenter les intervenants de ce soir. Donc, Teodora Cyrilovic, qui est là, qui est soutien en France du mouvement étudiant. Jean-Arnaud de Reims, rédacteur en chef du Courrier des Balkans, qui est un outil précieux pour connaître mieux en France la situation de tous ces pays. Lazar Jeremic, qui est étudiant et manifestant belgradois et qui est venu spécialement de Belgrade pour notre soirée. Merci infiniment d'être venu. Aussi le professeur Miodrag Jovanovic, vous ne le voyez pas parce qu'il est à Belgrade et il interviendra par visio. Donc je vais laisser la parole d'abord à Lazar Jeremic, qui est étudiant belgradois.
Ja sam Lazar Jeremić, ja sam student filološkog fakulteta u Beogradu.
Bonsoir à tous et à tous. Lazar Jeremić, étudiant à la faculté de philologie de Belgrade. Et je voudrais d'abord, Lazar, remercier vivement la diaspora pour son soutien sans faille depuis le début du mouvement. Et parce que ça fait partie intégrante de la lutte des étudiants sur le terrain, de pouvoir aussi être entendu à l'international et auprès de la diaspora en particulier.
Teo bih da počnem sa događajem 1. novembra prošle godine, nasrečnica na sveže renoviranoj železničkoj stanici je pala i usmrtila 14 ljudi, teško ranjeno troje.
Lazar voudrait commencer son intervention en rappelant l'origine du mouvement, donc le 1er novembre 2024, l'effondrement de l'auvent de la gare de Novi Sad, qui fait sur le coup 14 victimes, 3 blessés graves, dont 2 ont leurs blessures. Et pendant tout le mois qui a suivi, ils ont fait face à des mensonges perpétuels de la part du gouvernement sur les tenants, les aboutissants de cet incident. Ils ont commencé à ce moment-là déjà à faire les 14 minutes, puis 15, puis 16, en fonction des victimes supplémentaires. Maintenant 16 minutes de silence, à 11h52, au moment de l'incident. Et puis le 26 novembre, ça a été vraiment le début du mouvement dans l'ampleur qu'on lui connaît, puisque vous avez des étudiants de la faculté d'art dramatique à Belgrade, qui ont été passés à tabac, attaqués par des loyalistes du régime. Et c'est suite à cet événement-là du 26 novembre que le rectorat de Belgrade a été bloqué par les étudiants et ce qui a amené au blocage complet des universités en Serbie.
Blokade kada su počele same, cilj je bio u ta četiri studentska zahteva, od kojih je najvažniji bio...
Donc depuis le début du mouvement, il y avait quatre demandes vis-à-vis du régime, du pouvoir en Serbie. Une demande très importante était la publication de tous les documents liés à la rénovation de la gare de Novi Sad. Donc ce demande de transparence pour savoir qui était impliqué et qui était responsable. Et la demande récente, la dernière, donc cette demande de publication des documents n'a jamais été satisfaite. Et la dernière demande qui est la tenue d'élections parlementaires, législatives, exceptionnelles, n'a pas non plus été remplie jusqu'à présent. Lazare souligne qu'ils ont mis en place assez vite ce système de plénum, c'est une espèce d'assemblée générale, système de plénum, donc de démocratie directe dans le mouvement étudiant qui permet à chacun de s'exprimer, de construire en fait des positions communes et collectives. Depuis le début, ils font face à une répression du régime, notamment dans les 2-3 premiers mois. Ils avaient une peur constante des autorités. Des collègues de Lazare ont été convoqués pour des écoutes préliminaires. Donc il y a eu des tentatives d'intimidation assez tôt. Mais bon an, mal an, ils ont tenu. Ils ont tenu. Le mouvement tient depuis un an maintenant. Et est devenu un mouvement dans lequel beaucoup de leurs concitoyens en Serbie, au-delà du mouvement étudiant, se reconnaissent maintenant dans leur demande de justice et de vérité dans le pays.
Nakon toga shvatili smo da same blokade nisu dovoljno pritiska pravile na ispunjenje zahtjeva, pa su i...
Au fur et à mesure de l'année, le mouvement a réalisé que le blocus des universités n'était pas suffisant. Et donc ils ont commencé à développer d'autres modes d'action, donc des grandes manifestations, on y reviendra, et puis aussi des blocages de la circulation sur les routes, certains blocages ayant pu durer jusqu'à 24 heures. En ce qui concerne les manifestations, Lazare voudrait en souligner deux en particulier, celle du 15 mars 2025, où il y a eu plusieurs grandes manifestations dans les villes principales de Serbie, et en particulier à Belgrade, où il est estimé que c'est la plus grande manifestation qui ait jamais eu lieu dans l'histoire du pays, ever. Donc les chiffres sont contestés. Alors les chiffres de la police ne sont pas les mêmes, on ne va pas les mentionner, mais entre 300 000 et 1 million sont les estimations de gens à Belgrade. Donc ça, c'est pour celle du 15 mars. Pour le 28 juin, est un autre point de bascule. C'est le moment où les étudiants ont fait ce qu'ils appellent un feu vert, c'est-à-dire qu'ils ont appelé les citoyens, donc au-delà du mouvement étudiant, pour qu'ils s'auto-organisent en suivant un modèle pareil d'auto-organisation, démocratie directe, en parallèle de celui des étudiants. À partir de ce moment-là, c'est aussi un moment où la répression sur place s'est accentuée. Lazare mentionne des centaines de ses collègues étudiants et de citoyens qui ont été passés à tabac, convoqués par la police, etc. Et passés à tabac aussi par des gens qu'il dit ne pas vouloir appeler des soutiens au régime, puisque c'est des gens qui sont pour beaucoup... payés en fait par le régime, c'est beaucoup de petites criminalités qui est mobilisée, payée pour aller passer à tabac les manifestants, jusqu'à ce terme qui est très difficile à traduire, qu'on appelle Chatsiland, Disneyland pour les Chats, il est soutien au régime, qui est maintenant cette espèce de campement sauvage qu'il y a devant le Parlement en Serbie.
Danas možemo da kažemo da je nastava počela ponovo, izgubili smo jednu celu godinu na univerzitetu.
Donc Lazare souligne qu'aujourd'hui, il fait une petite description de l'état du mouvement. Il considère que probablement personne en Serbie ne considère aujourd'hui que le combat est gagné et que la lutte est finie. Au contraire, il y a plutôt le sentiment qu'ils ont à peine commencé. Et c'est un moment d'incertitude sur la suite.
Lazare disait que les prochains pas, voilà, il y a beaucoup d'incertitudes sur les prochains pas. Il sait même pas s'il va pouvoir retourner à Belgrade. Là, donc, un peu plus loin, c'est encore plus flou. Et il voulait souligner un incident qu'il n'a pas mentionné tout à l'heure pour donner aussi un peu un aperçu de ce contre quoi il lutte. Donc pendant la manifestation du 15 mars, il y a aussi eu l'utilisation d'une arme illégale contre les manifestants, donc un canon à son.
On y
reviendra tout à l'heure. Et Lazare voulait souligner que pour l'instant, personne n'a répondu de ce fait grave.
Neću više da oduzimam vremena od drugih govornika. Hoću samo ponovno da se zahvalim svima što ste tu i što slušate i što se borite sa nama na svaki način mogući. U ime mojih kolega, u moje ime, stvarno, hvala vam puno.
Je vais quand même traduire et voulais juste vous dire merci d'être là, de les entendre et en son nom et au nom de ses collègues, merci du fond du cœur.
Lazare, on va essayer de se brancher avec le professeur Jovanović à Belgrade.
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là, même sous cette forme. Il voudrait donner quelques exemples d'infractions aux droits de l'homme en Serbie sur l'année qui vient de passer. Donc d'abord, l'atteinte à l'intégrité physique des étudiants et des citoyens. D'abord, par le fait que des représentants ou des loyalistes au régime sont rentrés en voiture dans certaines manifestations et donc ont renversé des manifestants. Et dans quelques cas, par miracle, on est passé vraiment très près d'avoir des victimes. Ensuite, l'étape suivante d'atteinte à l'intégrité physique, ça a été la police directement, avec l'utilisation d'une force disproportionnée. Et un cas emblématique, on l'a mentionné tout à l'heure, c'est l'utilisation de cette arme interdite, le canon à son, sur les manifestants du 15 mars. Et à partir de ce moment-là, on a aussi commencé à avoir des forces parapolicières, paramilitaires, plutôt venant en fait du monde du milieu criminel, et qui ont commencé aussi à s'attaquer physiquement aux manifestants. En parallèle de l'atteinte à l'intégrité physique, il y a aussi l'atteinte à l'intégrité psychologique des manifestants. Et en particulier, les actes de terreur. Il s'agit de terroriser, via ces actions, des participants manifestants, aux manifestations, et en particulier les étudiants. La force principale a été la force de sécurité nationale, qui est une des forces de sécurité, qui a vraiment tenu le rôle de bras armé du régime dans ses actions de terreur psychologique. Et les méthodes typiques étaient des coups de téléphone impromptus aux étudiants, des visites soit aux étudiants sur leur lieu d'études ou des visites aux parents des étudiants sur leur lieu de travail, et des convocations à des soi-disant conversations amicales, en bonne entente, dans les bureaux des forces de sécurité. Et donc là, on a une infraction nouvelle aux droits humains, donc c'est le droit à la liberté, avec donc des atteintes illégales à ce droit. Une des méthodes employées était des inculpations sans aucun fondement légal, avec des accusations d'infractions parmi les plus graves, notamment d'infractions à l'ordre constitutionnel. Donc la méthode habituelle était de mettre une telle pression sur les individus interpellés pour qu'ils finissent par avouer et admettre qu'ils avaient effectivement enfreint les lois, enfin que les accusations étaient réelles, comme une manière en fait de se libérer de ces procédures. Et ça s'était utilisé donc par le régime, du coup derrière, comme excuse pour dire « Regardez, ils ont effectivement bien fait ça ». En lien direct Avec ces méthodes-là, il y a aussi l'utilisation d'incarcération illégale. En dehors de la procédure normale, il y avait le choix par défaut d'incarcération pour ces individus, faisant partie intégrante de ce système d'intimidation. Dans ce contexte-là, il y a eu plusieurs exemples, plusieurs cas de comportements inhumains
vis-à-vis des personnes incarcérées. Un des cas les plus frappants de ces comportements inhumains a été le passage à tabac par la police pendant une arrestation d'un citoyen, donc d'un manifestant, d'un âge assez avancé et qui a été donc passé à tabac de manière si violente qu'il en a perdu un testicule. Une autre image très typique qui a marqué les esprits, c'est que des étudiants privés de liberté ont été alignés face à un mur, à genoux, les mains derrière le dos ou la tête, et ça faisait vraiment penser aux images de Guantanamo. Un autre geste d'action du gouvernement sont les atteintes à la vie privée, notamment digitale, informatique, avec le hacking, donc le piratage de téléphones, de comptes sur les réseaux sociaux. Et en ce moment, c'est vraiment aussi une des méthodes qui monte en intensité ces derniers temps. Une autre encore catégorie d'action, c'est la création de divisions ethnico-religieuses. Donc on a, à l'intérieur du mouvement, il y a des étudiants de Novi Pazar, qui est une ville qui vient d'une région au sud de la Serbie, où il y a une majorité musulmane. Et donc pendant la marche de 16 jours qui a précédé le rassemblement du 1er novembre à Novi Sad, pour l'anniversaire, marquant la catastrophe de l'an dernier, donc il y a eu une marche de 16 jours de ces étudiants venant du sud de la Serbie vers Novi Sad. Et pendant toute la marche de 16 jours, les tabloïds du régime les appelaient djihadistes, terroristes islamistes, venant ruiner le pays. Une autre infraction qui concerne tous les citoyens, c'est la transparence vis-à-vis de décisions qui concernent l'intérêt général. Pendant que des discussions importantes ont lieu, notamment à l'Assemblée, en fait, tous les médias, et notamment les tabloïds de service du régime, font des spins qui sont vraiment de la désinformation caractérisée sur ce qui se passe. Donc toutes ces infractions aux droits humains ont lieu en parallèle avec un renforcement des forces paramilitaires, paracriminelles dont on parlait tout à l'heure, et dont le symbole vraiment emblématique en ce moment est ce campement qu'on a évoqué tout à l'heure, qui est en ce moment devant le Parlement de la Serbie à Belgrade, et qui fait vraiment penser à une méthode employée pour la défense du régime ukrainien, les titouchkés. Le professeur souligne qu'il y a un parallèle entre ces deux méthodes. Et donc c'est une zone là devant le Parlement où sont passés à tabac les citoyens, les journalistes, les étudiants évidemment. Et puis là, dans les dernières 48 heures, les membres du Parlement, les députés qui ont voulu rentrer par l'entrée principale et donc en passant par ce camp et qui ont eu affaire à ces groupes lors de confrontations physiques puisqu'ils voulaient les empêcher de rentrer faire leur travail de député. Et tout ça se passe dans un contexte où le régime exerce une pression continue et des intimidations continues sur toutes les différentes magistratures, les différents tribunaux, et en particulier sur qu'on pourrait appeler le premier juge contre le crime organisé. Il y a plusieurs enquêtes en cours par ces juges vis-à-vis du régime, et ils sont sous une pression permanente, y compris publique, par le président lui-même. Et en particulier, il y a vraiment un point de bascule le 1er août dernier, quand ce procureur, ces magistrats en charge de la lutte contre le crime organisé, ont lancé une enquête concernant justement la gare de Novi Sad, avec la volonté justement de faire la transparence sur la documentation. Et donc, quand ils ont voulu répondre à la première demande du mouvement étudiant, et c'est à partir de ce moment-là, le 1er août dernier, qu'il y a une montée en intensité et des pressions cachées et des attaques publiques par le régime vis-à-vis de ces juges.
Merci, au revoir.
Donc je rappelle que le professeur Jovanovic, que nous venons d'entendre, est un spécialiste de la sociologie et de la théorie et philosophie du droit à l'Université de Belgrade.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. On continue sur l'actualité des luttes en Serbie.
Je laisse la parole maintenant à Jean Jean-Arnaud Derrins, qui est rédacteur en chef du Courrier des Balkans, qui va nous parler des enjeux politiques et internationaux de cette crise.
Oui, ben merci beaucoup et bonsoir à tous encore une fois. Donc oui, je voudrais essayer de poser, en fait, en réalité, de poser des questions auxquelles on pourra essayer tous ensemble de répondre dans la discussion qui suivra ce tour de table. Il est clair qu'on est tout de même à un moment un peu particulier. Le mouvement dure depuis plus d'un an et ce mouvement qui se bat fondamentalement pour une chose très simple, qui est le respect de l'état de droit, c'est-à-dire ce qui est supposé être le cœur des valeurs européennes. Et depuis un an, négligé par l'Union européenne, et je dirais de plus en plus négligé. On pouvait imaginer que, voyant ce mouvement perdurer peu à peu, les différents partenaires internationaux de la Serbie allaient se dire tout de même, il se passe quelque chose. Mais en réalité, non, c'est plutôt l'idée sur laquelle mise Aleksandar Vučić depuis le départ, qui est celle d'un essoufflement, qui est, je dirais, très honnêtement, le rêve secret de tous les diplomates en poste à Belgrade. Que ça s'arrête enfin et qu'on passe aux choses sérieuses, qu'on continue à vendre Vinci, des aéroports, des centrales nucléaires. Peut-être la France est très intéressée par développer du nucléaire en Serbie et pas mal d'autres choses. Passons enfin aux choses sérieuses, que l'on puisse discuter entre gens qui peuvent s'entendre. Alors, comment comprendre cette étonnante attitude? On pourrait faire des comparaisons. L'intérêt qui a été apporté, par exemple, aux protestations démocratiques en Géorgie. Jamais les mouvements qui se déroulaient exactement en même temps en Serbie n'ont eu le même soutien. Alors, bon, je crois qu'entre nous, on connaît bien les choses. La plupart des gens qui sont ici, bon, il y a beaucoup d'amis serbes, je pense que tout le monde connaît un petit peu la situation. Fondamentalement, on connaît les arguments qu'on peut mettre en avant sur ce point. Il y a bien évidemment l'intérêt du lithium. Et il faut rappeler qu'au mois de juillet 2024, le chancelier Scholz était à Belgrade pour assister tout de même à quelque chose d'assez extravagant, qui est la signature d'un accord de partenariat sur les matières premières stratégiques entre l'Union européenne et la Serbie. Pourquoi est-ce que c'est extravagant? Parce que cet accord a été signé par des pays comme le Chili, comme la République démocratique du Congo, comme le Canada, comme l'Ukraine, avant qu'elle ne soit candidate. C'est-à-dire, c'est un accord entre l'Union européenne et un pays qui n'est pas appelé à devenir membre de l'Union européenne. Or, tout de même, la Serbie, depuis plus de 12 ans, a le statut de candidat. Donc, c'est un peu comme si l'Union européenne signait un accord de partenariat avec la Belgique ou le Luxembourg. Ça colle pas, quand même, cette histoire. Mais bien évidemment, l'enjeu des ressources minières est un enjeu majeur. Scholz était, lors de cette signature, accompagné des principaux patrons du secteur automobile allemand, parce que l'enjeu est majeur. Pour le coup, on sait qu'il y a du lithium en Serbie, mais le lithium, il n'y a pas de mine propre, ça n'existe pas. Il vaut donc beaucoup mieux aller l'exploiter chez le voisin que chez soi. Il y a aussi l'affaire bien connue en France, celle de la vente des avions Rafale. Et on pourrait citer en fait l'ensemble des contrats que la France a pu signer au cours des dernières années. Les avions Rafale, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. On parle, pour commencer, de 12 avions dernier cri dont l'utilité pour la Serbie n'est pas tout à fait évidente. La Serbie est un pays neutre qui donc n'a pas d'ennemis. Et on ne va pas envoyer les Rafales à Mitrovica Nord, il faut être sérieux. Donc à quoi vont-ils servir? Après, je vous rassure, ces Rafales, de toute façon, ne sont pas fabriquées, pas livrées et pas payées. Comment est-ce que la Serbie nous aurait payé une facture de 3 milliards d'euros? Comment? En fait, c'est des avions en papier. Et si l'on repense aux éléments de langage de l'Élysée juste après la signature du contrat, fin août 2024, on est toujours, vous voyez, quelques mois avant le début du mouvement. C'est sûrement une coïncidence, mais c'est intéressant de le noter. Les éléments de langage de l'Élysée, c'était de dire que la vente de ces avions allait ancrer la Serbie dans le camp occidental. Quelques jours plus tard, Aleksandar Vučić recevait le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov. Donc tout gagné pour l'Élysée. Mais fondamentalement, ce qui, en fait, dans ce contrat de... qui n'est pas tout à fait un contrat de... Enfin, dans cette promesse de vente d'avions en papier, qui a gagné? Qui tient les règles du jeu? Mais ce n'est pas Macron, c'est Vučić. Parce que Vučić sait très bien que ces avions ne seront peut-être jamais livrés, et il s'en fiche. Par contre, il sait que jamais la France ne critique un client, même un acheteur d'avions en papier. Et donc c'est lui, en réalité, qui a acheté, à très bon prix, mais ça n'a pas coûté un dinar, qui a acheté à très bon prix le soutien, ou le silence, à tout le moins, de Paris. Alors, au-delà de ces cas particuliers, fondamentalement, pourquoi l'Union européenne et ses différents États membres n'est pas plus capable de réagir. On le sait sur tous les sujets, elle est à peu près divisée. L'Union européenne, c'est autant Emmanuel Macron, excusez-moi, que Giorgia Meloni ou Viktor Orban, qui était encore ce matin à Subotica pour promettre que la Serbie allait enfin avoir du pétrole. Ne vous inquiétez pas, MOL va certainement racheter Nice, et donc le pétrole continuera à couler, probablement, c'est pas encore fait, à la raffinerie de Pančevo. Quand on dit Union européenne, on parle de qui ? La question aujourd'hui, elle est évidente. Il n'y a pas une ligne européenne. Mais fondamentalement, il y a un point qui est commun. Et à Emmanuel Macron, et à Viktor Orban, et à Giorgia Meloni, à qui vous voulez, c'est le fait qu'en réalité, l'Union européenne aujourd'hui n'a rien de concret à proposer à la Serbie. Et n'ayant rien de concret, la seule chose qui compte, c'est le maintien du statu quo. Et qui est l'homme qui peut garantir le statu quo ? Aleksandar Vučić. C'est l'homme de la situation. Et là, comment dire, ils se sont trouvés. C'est pas un mariage de raison, c'est un mariage d'amour. Puisqu'Aleksandar Vučić n'a aucune envie que la Serbie rejoigne l'Union européenne, ça tombe bien. Les Européens n'ont aucune envie d'intégrer la Serbie. Donc ils sont faits pour se trouver. Pour l'instant, il faut juste gagner du temps. Et pour ça, Vučić, c'est l'homme de la situation. Et par contre, les Européens ont très peur. Ont très peur de ce que pourrait amener, ce qui pourrait suivre le régime de Vučić. Alors là, on joue bien évidemment à se faire peur. Il n'y avait pas très longtemps, pour le citer, un article dans Le Monde expliquant que le nationalisme gangrenait le mouvement étudiant. Il y a toujours eu des courants variés, des sensibilités différentes dans ce mouvement, à l'image de la société serbe elle-même. Mais mettre l'accent sur le nationalisme en train de gangrener le mouvement étudiant, c'est faux et pas tout à fait honnête, je dirais, pas tout à fait professionnel. Parce que d'une part, il n'est pas plus présent aujourd'hui qu'il y a 6 mois, et c'est pas ça la question principale. Par contre, on aime bien se faire peur et se dire que finalement, certes, ce Vučić, on sait qu'il ne respecte pas l'état de droit, on sait qu'il est corrompu, mais au bout du compte, il garantit quoi ? Il garantit un positionnement géopolitique à peu près acceptable de la Serbie. Et là encore, c'est quand même très paradoxal. La Serbie est le seul État candidat à l'intégration européenne qui n'applique pas de sanctions contre la Russie. Donc il n'aligne pas sa politique étrangère sur celle de l'Union européenne. Et on aurait pu penser, il aurait été logique, que la Serbie se fasse taper sur les doigts pour cette raison. Pas du tout. Vučić, qui est peut-être, on dit souvent qu'il est joueur d'échecs, je pense qu'il est encore plus conceptuellement judoka que joueur d'échecs, parce qu'il sait utiliser, transformer ses faiblesses en force. Et au lieu de se faire taper sur les doigts par les Européens, il a transformé cette position délicate en élément de chantage. Attention, je pourrais me rapprocher encore plus de Poutine. Et du coup, tout le monde a très très peur et passe tout à Vučić, de crainte qu'il ne se rapproche un peu plus de M. Poutine. C'est parfait. Et la géopolitique, pour des petits pays comme la Serbie, pour le coup, c'est sûrement le plus grand piège. Parce qu'au nom de la géopolitique, au nom d'équilibre géopolitique dans un monde où franchement personne ne sait quels sont les équilibres réellement pertinents, ni ceux qui ont encore un peu de sens, mais on invoque toujours ces équilibres, c'est donner un blanc-seing à Vučić, qui est l'interlocuteur qui peut rassurer les Européens. On en est là. Je vais terminer sur un point, une autre question. Très simple, c'est comment les choses peuvent-elles évoluer ? Il y a la question des élections qui est revendiquée par l'ensemble des gens qui défilent dans la rue en Serbie, les étudiants, mais aussi la société civile. Là, Vučić veut gagner du temps. Normalement, le terme normal des élections, c'est fin 2027, dans 2 ans, un peu plus de 2 ans. Enfin, décembre 27. Il a dit à plusieurs reprises, oh, mais les élections pourraient avoir lieu en 26. C'est l'art du compromis à la Vučić. Ce qu'il espère, c'est que ces élections n'aient pas lieu tout de suite, qu'elles aient lieu dans suffisamment longtemps pour que le mouvement se soit essoufflé, pour que le mouvement se soit divisé. Ça, je crois que c'est aussi un point très important, pour que cette liste étudiante donc, ne soit pas en réalité en mesure de se présenter aux élections ou qu'elle soit confrontée à une concurrence d'autres listes d'opposition. Et en même temps, en ne donnant pas de date, il se donne les moyens de rester toujours le maître du jeu. La question des élections, ce n'est pas seulement de les convoquer, c'est les conditions dans lesquelles elles vont se dérouler. Et là-dessus, il y a plusieurs choses, des choses qu'on connaît très bien. La liberté des médias qui n'est pas au rendez-vous. Mais je dirais que le plus important, encore plus important que la liberté des médias, c'est les listes électorales. Parce qu'on sait que dans tous les pays des Balkans, pour le coup, ce n'est pas propre à la Serbie, ben vous avez des listes électorales où il y a plus d'électeurs inscrits que d'habitants dans le pays. Ce qui pose quand même un problème. Donc la question de la révision des listes électorales, elle est au cœur des enjeux. La question des modalités de vote pour la diaspora, elle est au cœur des enjeux. Si Vučić disait les élections auront lieu, je ne sais pas, le 15 mars ou le 28 juin, je pensais des dates au hasard bien sûr, Là, il faudrait s'organiser. Et quelque part, même l'OSCE serait un petit peu sommé de mettre en place un plan. En cultivant le flou pour convoquer un scrutin au moment qu'il arrangera, il espère pouvoir l'organiser dans les conditions qui le favoriseront. Comment ? Et là, je n'ai pas la réponse. Peut-être que collectivement, on pourra essayer de trouver des pistes de réponse. Mais comment faire en sorte pour faire dérailler ce scénario-là ? Alors, bien évidemment, des rendez-vous comme celui de ce soir sont très importants. Le travail que fait Amnesty International, le travail modestement que fait le Courrier des Balkans en informant tous les jours de ce qui se passe, de cette mobilisation, c'est important parce que la bataille des opinions publiques dans tous les pays d'Europe, elle est très importante. Mais le fait est que la partie est quand même, il ne s'agit pas d'être défaitiste ou pessimiste, mais enfin la partie est quand même loin d'être gagnée aujourd'hui. Et je pense qu'Aleksandar Vučić a hélas montré qu'il avait une capacité étonnante à survivre au tourbillon de la protestation.
Justement, on va lui laisser la parole à cette diaspora, à la personne de Théodora Cyrilovitch, qui est soutien en France du mouvement étudiant.
Bonsoir et merci d'être venu. Merci Théodora Cyrilovitch, 52 ans. Merci Amnesty, tous les intervenants, notamment Lazare et Théodora qui sont venus de Belgrade et, suite à leur lutte, sacrifice et tout le mouvement de protestation, on est là aussi. Merci, merci à eux. Donc, diaspora. Donc, je parle comme quelqu'un qui vit en France depuis 20 ans. Je ne suis pas la seule. Pour moi, diaspora et position de la France, c'est longue histoire. Et c'est pour moi un peu l'histoire et modèle, comment faire. La France a pu et su intégrer largement les différentes diasporas durant son histoire. Je pense que toutes les diasporas ont été attirées par l'état de droit. Donc c'était sine qua non pour que les diasporas, les gens viennent et s'intègrent, pas assimilent, mais intègrent dans la société française. Ils ont pu embellir et enrichir la France. Je pense à des Portugais, Espagnols, Grecs et les Roumains. Ce sont pour moi les pays et diasporas modèles, les pays qui ont connu les longues décennies de dictature et qui ont pu se relever en bonne partie grâce à la communauté européenne, mais surtout grâce à une démocratie. Ils ont goûté à ce beau fruit. Et puis, inévitablement, émancipation et enracinement de diaspora qui vont en France et vers les métropoles travailler dans les deux directions. Il n'y a pas de meilleur émissaire diplomatique qu'une belle diaspora bien enracinée, et ce sont les meilleurs émissaires économiques, culturels, sociaux. Je passe à deuxième item, ressenti, événement dans le diaspora serbe. J'en fais partie, je danse dans une association de folklore, mes enfants sont partis, ils ont participé au travail de l'école serbe dans le centre culturel, donc je connais un peu de l'intérieur comment ça fonctionne. La diaspora serbe est notamment positionnée à Paris, Strasbourg et Lyon. Elle est nombreuse, hétérogène, et malheureusement, elle n'a pas su s'émanciper suffisamment, selon moi, et elle n'a pas pu présenter tout son potentiel. Mais bon, revenons sur l'intérieur. À Paris, ça se passe autour de l'église, centre culturel, plutôt l'école, et des associations de folklore, et puis tout est chapeauté un peu par l'ambassade. L'agenda, c'est le calendrier des fêtes nationales et religieuses. Malheureusement, mon sentiment, c'est que la diaspora serbe se baigne un petit peu dans le communautarisme, révisionnisme et puis, des fois, complotisme. Ça l'empêche d'évoluer. De 2000 à 2010, jusqu'à l'arrivée des radicaux au pouvoir, il y avait une indifférence envers la diaspora, je dirais. Et après, elle est contrôlée sous fort contrôle de parti au pouvoir, de président Vučić. Ça veut dire, si tu n'es pas avec moi, tu es contre. Les exemples, la purge des professeurs très bons professeurs enseignants de l'école serbe qui ont donné le soutien aux étudiants. Cet été, ils sont partis. Ils étaient renvoyés en Serbie. Et deuxième exemple, deux associations de folklore qui n'ont pas pu obtenir les subventions, même symboliques, il s'agit des sommes de 1 000 euros pour année, parce que leurs participants, adhérents, entre autres moi, ont pu donner le soutien aux étudiants via les différentes manifestations, y compris l'accueil des cyclistes étudiants à Strasbourg. Je passe au troisième item et je vais terminer. Comment Diaspora soutient le mouvement étudiant ? À partir du moment où vous avez pu comprendre un peu la structure de notre diaspora, c'était clairement normal et puis presque intuitif que nous, qui vont former l'initiative 1152 Paris, on a pu comprendre qu'à partir du 1er novembre 2024, on ne pourra pas exprimer librement notre deuil, colère et soutien. C'est pour ça que les gens spontanément ont commencé à s'organiser autour des manifestations devant l'ambassade, ou plutôt la résidence de l'ambassadrice. Ça s'est formé spontanément avec beaucoup d'enthousiasme, colère encore une fois, mais aussi le focus sur tout ce qui s'est passé en Serbie. Derrière 25 manifestations, et assez rapidement, on a pu comprendre que ça ne suffira pas. Je dirais que nos trois axes d'action sont manifestation, mais aussi aller vers diaspora cloisonnée pour lutter contre désinformation, leur expliquer leurs droits et obligations de vérifier s'ils sont inscrits sur les listes électorales, d'aller voter parce qu'ils décident aussi de leur village, leur ville, ils paient les impôts en France, mais aussi là-bas. Donc c'est le travail de terrain. Deuxième, aller chercher les médias françaises. Ce n'est pas évident, mais on y tient. Merci à vous. On va continuer. Et ça ne vient que de commencer. Allez sur Instagram 1152 Paris et on va continuer à travailler ensemble. Et merci pour tout. Et merci à nos étudiants qui sont venus. Pompaï.
En décembre 2024, Amnesty a publié un rapport intitulé « Une prison numérique, surveillance et répression de la société civile en Serbie », où est dénoncée la surveillance technologique des autorités serbes qui infecte les portables des journalistes et des militants écologistes en particulier. Notamment un nouveau système qui est produit en Serbie et visant les appareils Android qui s'appelle Novi Spy. Les autorités serbes, quand ils arrêtent un journaliste par exemple, les autorités utilisent un logiciel israélien de la société Celebrit pour rentrer dans le téléphone. Et ensuite, ils injectent ce Novi Spy qui peut écouter les conversations, qui peut brancher tout seul le micro, brancher tout seul la caméra. Donc c'est vraiment une atteinte énorme à la liberté de la presse, une atteinte inacceptable à la liberté de la presse. Voilà, et je voulais vous parler aussi, ça a été évoqué déjà, sur ce fameux canon à son. Alors, il y a eu un reportage dans la chronique d'Amnesty International, la chronique d'octobre, que vous pouvez trouver en ligne, je pense. Le 15 mars, il y a eu une manifestation à Belgrade, une manifestation énorme qui a rassemblé énormément de gens en hommage aux victimes de Novi Sad. Et tout d'un coup, la foule s'est séparée en deux. Et il y a eu des milliers de témoignages sur ce fait. Et personne n'a consulté un médecin parce qu'ils se sentaient pas bien. Ils avaient des maux d'oreilles, des palpitations cardiaques, etc. Alors, est-ce que c'est un canon sonique ? Est-ce que c'est un autre dispositif ? Pour l'instant, on n'a pas de preuve définitive de ce qui s'est passé. En tout cas, selon Amnesty International, ces armes sonores constituent, je cite, « une grave atteinte à la liberté de manifester, à la santé, à la dignité humaine et à l'intégrité physique et mentale des personnes ». Voilà, c'est pour ça que nous sommes là ce soir. Nous vous laissons la parole pour toutes les questions que vous avez à poser à tous les intervenants qui ont bien voulu intervenir ce soir et nous apporter tous ces éclairages.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'actualité des luttes sur Fréquence Paris Pluriel. On continue sur l'actualité des luttes en Serbie.
Moramo da znamo da je Aleksandar Vučić stvorio 48 milijardera u evrima i 33.000 milionera u evrima. Sad možete da zamislite kolike su to razmere pljačke.
33.000 milionera.
Ne. 33.000.
Da, millionnaire. Donc un point que monsieur veut souligner, c'est que sous le règne d'Aleksandar Vučić, il y a 48 milliardaires en euros qui ont vu le jour en Serbie et 33 000 millionnaires sur un état de 6 millions de personnes.
Il faut se rappeler qu'au-delà de l'échéance de 2027, qui sont les délais légaux pour éventuellement faire des élections, 2027, ce sera aussi le climax de la dilapidation de la Serbie avec le fameux Expo 2027. Il faut juste aussi expliquer que la Serbie, pour nos amis français, est également victime d'une dilapidation absolue, industrielle, économique, et que ça représente des intérêts de l'ordre de billionnaires, millionnaires, milliardaires, qui sont tels qu'il n'y a pas du tout que des enjeux de politique totalitaire, mais bien de mafia, de vol et d'argent. Et qu'une fois le climax de 2027 atteint, Belgrade sera ruiné, puisqu'à présent l'ultime bataille, c'est de dilapider Belgrade, qui est la ville qui n'avait jamais encore été affectée à ce point par ce régime de dilapidation absolue, et on le voit à travers l'attaque contre le patrimoine culturel et donc la systémique destruction du patrimoine architectural, culturel, des monuments. Voilà, c'est comme les skakas, c'est comme les sauterelles. Ils auront tout mangé, tout détruit, tout ruiné. Et en 2027, nous aurons probablement des élections, mais eux seront partis puisqu'il n'y aura plus rien à voler.
Alors moi j'ai une question pour notre étudiant qui est quand même l'invité d'honneur aujourd'hui. Et quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'Union européenne ? Peut-être qu'il n'y en a pas, peut-être qu'il y en a, mais voilà, quelles sont vos attentes? Parce que comme on a entendu tout à l'heure, la situation est certes très complexe. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est sur les médias en France. Du coup, ça, c'est plutôt pour les autres intervenants qui sont basés en France. Voilà, comment la question a été abordée selon vous dans les médias? Est-ce que vous avez l'impression que les Français comprennent ce qui se passe en Serbie ou peut-être pas? Voilà, merci.
Mnogo teško očekivati bilo što, jer mi nismo nekako zvanično deo, mislim da mi smo zvanično uopšte nismo deo. Nekako bih najviše hteo da vidim da...
La réponse est qu'il est difficile de dire ce qu'ils attendent de l'Union européenne, parce que la Serbie n'est pas membre officiel, mais s'il y avait une chose à pointer, c'était que l'UE ne soutienne pas le régime actuel, parce qu'il est difficile pour la population là-bas de... j'allais dire d'entretenir une image positive de l'UE tant qu'il voit en fait un tel soutien au régime.
Je me permets d'intervenir parce que cet article dans Le Monde où ils évoquent le flux de nationalisme dans le mouvement d'étudiants, ça nous a vraiment beaucoup blessés. Tout d'abord peut-être parce que ça provient de Le Monde. Après, on se dit, bon, le professionnalisme dans le journalisme, bon, il faut chercher avec la loupe un peu partout. Je veux souligner quelque chose. À un moment donné, je pense que les gens ont commencé à parier sur un mauvais cheval. Aleksandar Vučić a eu une chance de faire une chose cathartique, de réconcilier, de se pardonner, de se mettre à genoux et de rebondir cette région. Bon, il a fait tour à l'envers. On n'est pas réconcilié ni avec Kosovo, ni avec les musulmans en Bosnie, avec personne. On n'a créé que les clivages encore plus profonds et que les ennemis. Ce qu'ils ont fait, les étudiants, déjà stratégiquement, ils ont choisi deux destinations, pas Minsk,
pas Saint-Pétersbourg, mais Bruxelles et Strasbourg. Une chose. Deuxième chose, un événement majeur, c'est Novi Pazar. Alors, je peux vous dire que j'étais étudiante les années 90. Je ne suis pas la seule dans cette salle qui a fait ça, qui a allumé les cierges devant l'assemblée du président de Milosevic à l'époque, quand il y avait le siège de Sarajevo. On était une vingtaine. C'est ce mouvement a émancipé une enclave qui était totalement à part, Novi Pazar, avec cette population musulmane, ce sont les Serbes musulmans, donc ils sont totalement émancipés. Et ça, s'ils avaient fait une seule chose, celle-ci, ils méritent l'honneur majeur. Il y a une troisième chose que je dois souligner, et ça passait inaperçu peut-être pour les médias, c'est les anciens militaires. Il y avait un blocus de télévision publique, et il a témoigné justement que quand il était jeune, il était infesté par la haine qui provenait des médias parallèles. Comme aujourd'hui, les médias font la même chose. Ils infestent la société serbe avec les mensonges, avec la haine. Et donc, ces trois éléments, quand quelqu'un écrit voilà, un nationalisme, bah moi j'aimerais bien qu'ils viennent ici autour de ces tables et qu'on leur montre les images de Djihab ou Shaikacha ensemble en lancé. Et c'est ça, je n'aime pas tout dans ce mouvement, mais je sais qu'ils portent des bonnes valeurs. Elles sont saines. Et il faut croire et il faut vraiment soutenir. Merci.
C'est vraiment essentiel de le rappeler. Je pense que ce qui s'est passé, surtout à Novi Pazar, c'est quelque chose que, notamment, les mouvements de protestation n'avaient pas su faire en 1996-97 ou lors de la chute de Milosevic. Et là, quelque chose, alors tout n'est pas réglé, mais quelque chose d'essentiel a été engagé, a été amorcé. C'est véritablement de l'ordre d'une refondation de ce qu'est la Serbie. Et ça, quelles que soient les évolutions, quelles que soient les élections ou pas les élections, c'est un acquis, c'est quelque chose qui va rester, c'est quelque chose qui a changé de manière durable. Les choses ne sont plus les mêmes, même si le mouvement essuie une défaite, il y a quelque chose de profond qui aura changé en Serbie. Ça, c'est très important. Je voulais aussi rebondir un tout petit peu sur les questions économiques. Je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit. Il faut vraiment bien comprendre que ce système Vucic, qui est très rationnel, c'est un système de prédation et de planche à billets en permanence. Et là, j'en reviens à l'attitude des Européens. Qu'est-ce qu'ils regardent, les Européens? Mais un taux de croissance. La Serbie a des meilleurs taux de croissance des Balkans. Mais ce taux de croissance est totalement illusoire, parce qu'il repose sur deux choses. D'une part, il repose sur l'exode constant d'une partie importante de la population. Donc, quand les gens se barrent, bien évidemment, il y a moins de chômage. C'est automatique. Donc ça arrange tout le monde. Mais surtout, le taux de croissance, en réalité, repose sur des créations d'emplois lourdement subventionnées, absolument pas durables, absolument pas viables, qui coûtent énormément d'argent. Et cet argent, d'où provient-il? Alors, il provient de deux, trois choses. Il provient, alors il y a un secteur économique qui marche, qui est l'industrie d'armement. Ça marche. La Serbie produit des armes à faible technologie, mais qui sont très consommées sur tous les terrains du monde. Et le fait que la Serbie vende des armes, notamment à l'Ukraine, c'est un atout géopolitique très important, très très important même pour Vucic. Mais bon, la Serbie en vend à tout le monde. Ça provient aussi du blanchiment d'argent lié, entre autres, mais pas seulement, à ce commerce d'armes. Et puis, ça provient sinon, effectivement, de la vente des ressources naturelles du pays. Donc il faut vendre en permanence, il faut vendre de nouvelles concessions minières aux Chinois, aux Australiens, aux Allemands sur le lithium, pour avoir du cash, pour entretenir ce système, pour entretenir déjà concrètement, pour payer l'infrastructure. Parce qu'il y a peut-être, oui, des millionnaires, en dinars ou en euros, j'en sais rien. Mais bon, les Tchadsi qui sont au centre de Belgrade, ils ne sont pas millionnaires. Mais il faut leur donner un billet tous les jours. Et ça représente de l'argent. Le régime pourra tenir tant qu'il sera en mesure de financer ce réseau de contrôle de la société. Et pour ça, il a besoin de beaucoup de cash. Donc le régime de Vucic repose sur un système de prédation qui doit en permanence dégager des revenus pour que ça tienne. Et pour acheter le soutien de gens qui profitent davantage du régime et qui ont tout intérêt à ce qu'ils se maintiennent. Mais sauf que c'est un système qui repose sur rien et qui forcément est condamné à tomber assez vite en panne. On le voit quand même là. L'histoire du pétrole, c'est quand même très important. Parce que Ça, c'était un petit peu le symbole de cette position d'équilibrisme géopolitique. Et là, Vučić n'y croyait pas. Il s'est retrouvé complètement piégé avec le fait que les sanctions américaines font que Nice ne peut plus, qui appartient à 56% à Gazprom et Gazprom Neft, ne peut plus s'approvisionner avec le pétrole qui arrive en Croatie à Rijeka. Et je crois que Vučić n'avait pas anticipé, qu'il a vraiment paniqué ces derniers jours. Parce que s'il n'y a plus de pétrole, on est au début de l'hiver, il n'y a plus de voiture, il n'y a plus de chauffage, il n'y a plus rien. Et ça, il n'avait pas anticipé. A priori, grâce à oncle Viktor Orban, qui est toujours un ami sur qui on peut compter, la Serbie va sûrement trouver une solution. Mais ça montre bien, en fait, pour le coup, l'extrême fragilité économique et sociale de ces systèmes. Et je dirais aussi la grande légèreté de pas mal d'observateurs qui se contentent de chiffres totalement illusoires de croissance économique ou de stabilité économique.
J'ai participé en 5 octobre 2000 contre Milosevic à l'époque. Aujourd'hui, tout le monde parle du 6 octobre, on attend toujours le 6 octobre, et a priori, personne n'a fait le 5 octobre. Je salue le mouvement étudiant, je le respecte beaucoup, mais pour moi, apparemment, leur plénium prend du temps, tout le monde a des sensibilités différentes, ce qui bloque et ralentit toute coordination, mouvement. En fait, je me demande, qu'est-ce qu'on peut attendre de ça? Je reviens de Serbie, là, j'étais là-bas pour commémorer les 1 an, je me suis rendu compte, on parlait aux gens, que la plupart étaient lassés. Ils n'écoutent plus. On les a fatigués. Ils sont fatigués. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer de ça? Parce que pour le moment, je pense que la montre joue pour Vučić. J'ai peur qu'en fait, à un moment, tout simplement, et je pense qu'ils sont en train de travailler dessus, évacuer tout l'argent qu'ils ont déjà en fait volé, et on perd du temps. Alors, c'est bien de faire des manifestations qui sont calmes, on n'a pas beaucoup de conflits avec la police. Je pense que la police sait très bien qu'ils ne sont pas du bon côté. J'ai parlé même avec des personnes qui font partie du parti SNS, qui le critiquent aussi, clairement. Donc, quel est son vrai support? Il n'y a pas de support. Le support, il est dans notre tête. Il faut en fait avoir clairement une ligne d'attaque. Il nous faut des, comment dire en Serbie, paiseri, des pieds de biche. C'est ce qui a fait en fait que le 5 octobre fonctionne. On avait des pieds de biche.
Ce moment, et tu le sais bien, on doit rester pacifique et pacifiste. La patience, la patience, la patience. On a déjà jeté un roi par le balcon. On connaît, on sait faire, tout va bien. Mais il nous faut un processus démocratique. Et je pense que, comme un antibiotique qui guérit une infection, bah, c'est un processus. On ne sait pas comment on va le... Mais, il nous faut pas les paiseries, les macazes, tout ça. Voilà. On a des biscottos, on a Thai box, on sait tout. Voilà, hein. Qui cure tout le monde, c'est la démocratie. Les gens en ont marre. Moi, de position quelqu'un qui vit à Paris comme toi, j'ai un bon confort. Moi, je suis sorti de zone de confort. Mais après, les gens ont voté pour ce monsieur. Ils ont pu s'opposer quand il y avait beaucoup d'autres infractions d'état de droit. Par exemple, Beograd n'a pas dit... Par exemple, les diplômes falsifiés, etc. Ils n'ont pas bougé. Je pense que là, ici, on est arrivé devant le mur. On va trouver la porte, mais on va passer par la porte. On ne va rien casser. Je pense que moi, j'opte et je soutiens ça.
Mogu da kažem, mislim, posebno za nas koji smo tu već. Skoro svaki protest je bio taj jedan moment gde se osjećamo kao da je ovo previše sporo, kao da mi sad treba nešto da uradimo i ja prođem pored Skupštine i pomislim treba sad da uletim odmah unutra i da rešim problem.
Lazard dit qu'il comprend tout à fait le sentiment qui est exprimé que à peu près à chaque action, chaque manifestation qu'ils organisent, ils ressentent même cette frustration de se dire c'est trop lent, etc. Lazard dit qu'à chaque fois qu'il passe devant le Parlement, lui aussi a cette pulsion de se dire « Allez, c'est le moment en fait, allez, je vais rentrer dedans et on va régler cette histoire. » Il estime aussi qu'en fait, il réalise que ça ne sera pas une réponse aux problèmes culturels plus profonds qu'il y a face à eux et qu'ils ont besoin d'affronter pour aboutir à la profondeur des changements escomptés.
Ono što je ovako tehnički odgovor je da kada mi glasamo da li ćemo i kako ćemo se ponašati na protestu.
Lazare explique que à chaque fois que je prépare une action, un de leurs critères extrêmement importants pour décider des tactiques à adopter, c'est de se dire voilà, nous, on ne veut pas organiser une action où on pourra pas, où on estime qu'on ne pourra pas appeler nos mères, nos voisins, nos amis, nos frères et sœurs à venir manifester en sécurité. Ils n'ont pas envie, voilà, Lazare dit, moi, je n'ai pas envie d'être à l'origine d'actions où je vais faire venir ma mère et où ce jour-là, le président, parce qu'il sera peut-être indisposé, actionnera un canon à son et enverra sa mère à l'hôpital ou pire. Et donc ça, c'est un de leurs critères très importants pour l'organisation des actions. La rage, ils la ressentent tout à fait, mais ils essayent de se tenir vraiment à cette ligne-là et ce n'est pas facile.
Mislim da je svako od nas kao student, da, ili ljudi koji su tu, možda i svaki dan, svako od nas je donekle spreman da da svoj život i da ugrozi svoju bezbednost za Srbiju.
Ce que dit Lazare, et ses mots sont très forts, donc je suis un peu ému par ce qu'il vient de dire et l'intelligence aussi des propos. Donc il explique qu'en fait, lui et ses collègues étudiants, sont dans l'ensemble prêts à donner leur vie pour ce pour quoi ils se battent et pour leur pays, mais qu'ils ne peuvent pas garantir que c'est le cas de leurs concitoyens et des gens qui vont venir aux événements qu'ils organisent. Et ils ne se sentent pas la responsabilité, y compris morale, de faire prendre des risques à leurs concitoyens. C'est une ligne extrêmement importante pour eux et ils considèrent que, et c'est là-dessus qu'ils concluent, en fait, ils ne pourraient pas endormir la nuit si demain ils organisaient des événements où ils savaient qu'ils faisaient prendre des risques aux gens. Aussi parce que les gens se reconnaissent en eux et viennent à leurs événements, parce qu'ils ont confiance dans leur intégrité et dans le fait qu'ils essayent vraiment de représenter une Serbie démocratique dans une lutte non violente. Et pour eux, en fait, se départir de cette ligne-là serait vraiment enfreindre une ligne morale très profonde.
Et simplement pour aller dans le sens de Lazare, c'est clair qu'aujourd'hui, le mouvement étudiant a une qualité que n'ont pas les partis politiques ou beaucoup d'entre eux. Et la difficulté que nous allons avoir aujourd'hui, c'est effectivement de construire quelque chose qui s'appuie sur les valeurs que portent les étudiants. Je terminerai sur une chose. En tant que nous, Français, que nous n'avons pas lu dans la presse française, et que je trouve ça totalement scandaleux, sur la gare de Novi Sad, c'est une entreprise française qui s'occupait du contrôle du chantier, Egis. Il y a eu deux personnes de cette société qui sont allées en prison en Serbie, aucun mot dans la presse française. Je pourrais parler du contrat Rafale. Le contrat Rafale, aujourd'hui, une des sociétés qui travaille sur le contrat Rafale est la société qui a importer les canons à son en Hongrie, en Serbie. J'en ai beaucoup d'autres aussi à vous raconter, mais c'est trop long.
Ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et, enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, vous écoutez les Régors chaque semaine sur les Coligarigues à Montpellier, Canal Sud à Toulouse, et bien évidemment Radio Primitive sur 1 sur cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le blog Le Chat Noir 51 et sur le site oclibertaire.l'autre.net.